Is Donald Trump unfit to be president?
Yes, but not in the way I often hear people talk about it. And I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president.
James Comey, l'ancien directeur du FBI, a dit « Je ne crois pas que médicalement, le président actuel soit inapte à être président, à occuper ce poste de présidence des États-Unis. Cependant, je le considère inapte moralement. »
Moralement, Paul, c'est pas tout à fait le genre de reproche qu'on entend à tous les jours de la part d'un ex-directeur du FBI à l'égard d'un président des États-Unis en fonction. En même temps, je te dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de directeurs du FBI comme James Comey, et il y a certainement eu pas beaucoup de présidents américains comme Donald Trump. Évidemment, cette entrevue-là est donnée dans le contexte où les mémoires de James Comey paraissent officiellement demain et dans un contexte, et je vois, Paul, que tu as déjà ta copie.
Et j'ai déjà ma version française.
C'est magnifique. Est-ce que tu vas l'avoir lu d'ici demain?
Probablement. Bon. Oui, c'est vrai, je lis très vite. Une loyauté à toute épreuve. Vérité, mensonge, éthique du pouvoir, James Comey.
Et j'espère que tu as au moins des redevances pour la plug que tu viens de lui faire en onde. Écoute, on pourra se reparler demain justement du contenu du livre. Ce que je te dirais, c'est que le contexte aussi dans lequel l'entrevue d'hier a été donnée, c'est un contexte dans lequel le président Trump est ressorti, parce qu'il était déjà sorti à la fin de la semaine dernière contre James Comey sur Twitter. Il en a rajouté une sacrée couche pendant le week-end, l'a qualifié de pire directeur de l'histoire du FBI, et même allé jusqu'à dire qu'il devrait être emprisonné. Là. Écoute, ça aussi, on n'entend pas ça souvent de la part d'un président à l'égard d'un ex-directeur du FBI. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans la fameuse entrevue d'hier? Bien, Comey a allégué que Trump aurait mis pression sur lui pour qu'il fasse une espèce d'acte de loyauté, aurait demandé que le FBI mette de côté son enquête sur le premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, soit Michael Flynn, et aurait même menti en insistant à nouveau que la taille de la foule à sa cérémonie d'inauguration était plus grosse que celle de Barack Obama. Mais tout ça, Paul, on le savait déjà. Et toi et moi, on s'en parlait un petit peu avant d'entrer en onde. La conclusion, là, si on a une chose à retenir de cette entrevue-là qui a tellement été moussée par le réseau ABC pendant des jours et des jours, c'est que pour le commun des mortels qui avait même suivi ça de plus ou moins loin, il n'y a rien de réellement nouveau. Donc, écoute, on va en parler et on verra ce qu'il y a dans le fameux livre. Mais à date, il y a une certaine déception, je te dis.
Absolument. Et on est ressorti de la même façon, tu te rappelles, à l'autre entrevue qui avait été faite à 60 Minutes.
Exact. Avec Stormy Daniels,
avec justement. Stormy Daniels. D'ailleurs, parlant de Stormy Daniels, oui. Veux-tu en parler tout de suite?
Pourquoi pas?
Puisque l'avocat personnel de Donald Trump, Maître Michael Cohen, comparaissait en cours aujourd'hui alors que la controverse continue de faire rage autour de lui. Et qui est apparu? Stormy Daniels et son avocat.
Et là, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce que Stormy Daniels fait là, c'est très simple. C'est que Michael Cohen est l'avocat qui a effectué le fameux paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels il y a de cela quelques années. Un paiement qui, selon ses propres dires, provenait de ses poches. Point. Donald Trump, son client, n'était même pas au courant.
C'est ce que dit le président aussi.
Évidemment.
Il a dit, je suis même pas au courant que j'ai versé quoi que ce soit ou que j'ai même eu une rencontre avec elle.
Exact. Je n'ai même pas connaissance que mon avocat ait versé ce montant-là, encore moins qu'il l'ait fait sous ma directive. Donc, écoute, tu as eu Michael Cohen donc qui comparaissait en cours à Manhattan aujourd'hui. On se rappellera qu'il y avait eu une perquisition assez spectaculaire, merci, dans ses bureaux professionnels, sa résidence, même sa chambre d'hôtel par les autorités fédérales. Et là, donc, comparution aujourd'hui. Et qui se pointe là? Stormy Daniels et son avocat. On s'entend que dès qu'il y a des caméras où il y a un potentiel de promotion et de notoriété, ils sont les deux à sauter là-dessus. Ça n'a pas été une exception aujourd'hui. Et Stormy Daniels est allé d'une déclaration aux journalistes présents dès qu'elle est sortie du tribunal aujourd'hui. Je la cite. « Monsieur Cohen n'a jamais pensé que les petites gens, surtout les femmes et même les femmes comme moi, ont de l'importance, mais ça se termine maintenant. » Fin de la citation, comme quoi Stormy est peut-être synonyme de la voix des petites gens.
Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, elle l'a démontré en étant sur place.
Et voilà.
Avec cet avocat qui est en train de se faire connaître, mais d'une façon remarquable.
Absolument.
Bon, finalement, l'administration de Donald Trump prépare une nouvelle ronde de sanctions contre la Russie.
Et oui, puis ça, c'est évidemment, ça survient dans la foulée de l'intervention militaire américaine, évidemment conjointe avec les Britanniques et les Françaises qu'on a observées au courant du week-end. Et là, on parle vraiment, le mot que tu as utilisé est clé, préparer. On prépare des sanctions. Il n'y a rien qui est sorti pour l'instant et ça pourrait ne pas être à très, très court terme. Mais il reste que ce dont on parle au sein de l'administration Trump, ça serait des sanctions qui viendraient particulièrement cibler des compagnies russes d'armement ayant potentiellement équipé le régime de Bachar al-Assad. Écoute, je te laisse avec une question, Paul. Dans le contexte actuel de ce qui serait une troisième ronde de sanctions américaines contre la Russie en 4 mois, dans le contexte d'une frappe américaine complètement détestée et décriée par la Russie, qui parle encore de copinage entre Donald Trump et Vladimir Poutine?
Oui, pour l'instant, pour effectivement, l'instant. C'était le cas en ce moment. D'ailleurs, le président russe s'est montré inquiet. Il a rencontré Rouhani, le président iranien, et il lui a dit que s'il y a une autre intervention avec la signature des États-Unis, même s'il y avait aussi la France et le Royaume-Uni dans l'attaque, s'il y avait une signature américaine, ben là, on pourrait créer un chaos extrêmement dangereux dans cette région qui est tellement sensible, tellement vulnérable. Et il souhaite, en fait, c'est pas lui qui l'a dit, c'est le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin a dit qu'on souhaitait que le dialogue ne soit pas interrompu de cette façon avec les États-Unis.
Ils sont en train de dire, Paul, qu'il y a une différence entre Vladimir Poutine et le porte-parole du Kremlin.
Ben, oui, c'est une nuance importante. En tout cas, le porte-parole du Kremlin, je lui donne au moins ce crédit-là. Okay. C'est son titre. Dit, il faut se parler.
Oui, c'est vrai. Et gardons en tête que les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que le conflit s'élargisse.
Je pense que personne n'a d'intérêt.
Exactement.
Ça nous inclut.
Exactement.
Merci beaucoup, Raphaël.
À demain.